Kennedy, Martin Luther King, Hitler et à présent quelques autres, dont Evgeny Prigogine. Les attentats ciblés, lorsque l'on cherche à cibler des djihadistes, des terroristes ou des gens gênants dans le schéma politique, les attentats ciblés sont une arme de guerre. L'assassinat ciblé comme arme de guerre, c'est le titre de l'étude publiée aux éditions du Rocher par Guéric Poncet, spécialiste de ces questions.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
On n'a pas assez conscience de tous ces chefs d'État, ces rois, ces princes qui sont assassinés aux quatre coins du monde. On ressent une certaine vulnérabilité. Il faut savoir aussi que c'est dans un contexte assez fort d'anarchisme. Les partis anarchistes sont assez importants, et notamment en France. Il y a eu l'assassinat de Sadi Carnot, par exemple, en 1894 à Lyon.
La mafia frappe de nouveau fort. Cette fois, c'est dans un quartier de Palerme que la mafia a fait exploser une bombe au passage de la voiture d'un autre juge et de son escorte. Le juge Paolo Borsellino a été tué sur le coup, ainsi que sa femme et quatre policiers.
Bonsoir, un crêpe noir au drapeau rouge de l'Internationale Socialiste, le drapeau bleu et jaune du Royaume de Suède en Berne. Le monde entier consterné et choqué après l'assassinat cette nuit dans une rue de Stockholm du premier ministre suédois Olof Palme.
Anna Politkovskaya dérange toujours. On ne veut pas faire la clarté sur son assassinat. On ne veut pas savoir qui a commandité et qui a assassiné cette personne. Et donc, les journalistes et les activistes qui actuellement demandent la vérité sur ce qui s'est passé, eh bien, sont encore menacés, sont encore interdits, sont encore intimidés. Si on n'est pas attentif à cela, eh bien, d'autres personnes comme Anna Politkovskaya risquent d'y laisser la vie.
Il était un homme talentueux, un homme d'affaires talentueux. C'était un homme au destin compliqué et il a commis de graves erreurs dans la vie, mais il a obtenu les bons résultats.
Bonsoir Guéric Poncet.
Bonsoir.
L'assassinat ciblé comme arme de guerre, c'est aussi vieux que l'homme des cavernes ?
C'est quelque chose qui est très très vieux. Effectivement, c'est une pratique qui remonte à très loin. On en voit notamment de premiers témoignages écrits sous l'Antiquité, et puis ça s'est généralisé au cours du Moyen-Âge, notamment durant les croisades, puisque la secte des assassins hein, qui vivait au Proche-Orient et qui a finalement réussi à exister dans l'ambiance des croisades où deux superpuissances de l'époque s'entrechoquaient, elle avait fait sa spécialité de l'assassinat, et donc elle a donné son nom à la pratique de l'assassinat ciblé.
Manifestement, l'accident d'avion un peu provoqué d'Evgeny Prigogine et des membres du board du groupe Wagner, en passant par quelques oligarques empoisonnés ou vitriolés ou poloniomisés. Est-ce que ça fait partie de cette même longue saga ?
Oui, alors la Russie a une longue pratique, hein, si je puis dire, de l'assassinat ciblé. Et effectivement, comme le disait Joe Biden, ça n'a surpris personne, entre guillemets, que Prigogine soit éliminé. Ce qui est sûr, c'est que les services russes multiplient les assassinats ciblés dans les dernières années. Et ils utilisent des méthodes très variées, à la fois traditionnelles, entre guillemets, avec une arme, mais aussi avec du poison, avec des substances radioactives, avec des éliminations aussi dans des avions, comme on a pu le voir avec Prigogine. Donc, ils utilisent toute la panoplie.
Oui, on a le souvenir peut-être des légendaires parapluies bulgares ou de certaines théières à Londres qui ont quand même servi à empoisonner un père et sa fille qui n'étaient plus fidèles au régime. Donc effectivement, la palette est vaste.
Oui, la palette est vaste et aujourd'hui, elle est complétée par une nouvelle technologie qui n'est plus si nouvelle d'ailleurs, mais qui se développe à vitesse grand V, c'est le drone. Qu'il soit de la taille d'un avion ou de la taille d'un insecte, finalement, le drone permet de systématiser l'assassinat ciblé et de prendre beaucoup moins de risques pour l'attaquant, puisqu'il n'a plus besoin de s'infiltrer dans une zone protégée, mais finalement, il peut envoyer, en le téléguidant depuis l'autre bout du monde, un petit drone de la taille d'un insecte avec une petite charge bactériologique, par exemple, pour y faire son assassinat.
Oui, on vient de parler ici des Russes, on semblerait évidemment les accabler, soyons clairs, lorsque depuis la War Room, ou la Situation Room, comme on l'appelle, à la Maison Blanche, un Barack Obama suit à distance la progression de ses Marines et de ses SEALs qui vont s'en prendre à Osama Ben Laden, c'est la même chose.
Oui, et d'ailleurs, Obama, il a une position assez ambivalente là-dessus, puisque un an après avoir reçu son prix Nobel de la paix, il a validé ce qu'on appelle la disposition Matrix, qui est une systématisation des assassinats ciblés aux États-Unis, qui permet en fait d'aller beaucoup plus vite du moment où une menace est déclarée par les services américains, c'est-à-dire qu'une personne est déclarée comme menaçante pour les intérêts américains, jusqu'au moment où la Maison-Blanche signe son arrêt de mort, entre guillemets, grâce à l'utilisation d'un drone ou de commando. C'était le cas pour Ben Laden, évidemment, qui était l'ennemi public numéro un, mais c'est le cas aussi pour des centaines de djihadistes ou de personnes dans le monde qui sont jugées opposées aux intérêts américains.
Est-ce que c'est aussi vu, en tout cas, que le pouvoir? Est-ce que ça fait partie de la panoplie du pouvoir? En clair, est-ce que l'opprobre que ça pourrait entraîner ne gêne pas les pouvoirs dans l'histoire qui utilisent l'assassinat ciblé?
Alors, dans l'Antiquité, l'assassinat ciblé était une pratique extrêmement courante, notamment au sein des familles du pouvoir. C'est-à-dire que pour éviter une guerre de succession ou pour faciliter une succession qui n'était pas forcément la première sur la liste, eh bien, on éliminait quelqu'un. Et c'était une pratique qui était vraiment beaucoup documentée hein, dans les textes de l'époque. Elle s'est ensuite élargie à toutes les personnalités qui pouvaient être menaçantes, à la fois sur le plan économique, sur le plan religieux. Notamment, on le voit soit dans l'Ancien Testament ou dans le Coran, il y a une pratique de l'assassinat ciblé. Et donc, finalement, cette pratique-là, elle est assumée à l'époque et aujourd'hui, elle est beaucoup moins assumée, finalement, hein, puisque les démocraties occidentales, notamment, ne veulent plus trop accepter l'idée qu'elles vont à l'encontre de leurs valeurs. Ils ordonnent des assassinats ciblés sans processus judiciaire.
Jusqu'où va-t-on dans la définition de l'assassinat ciblé? Est-ce qu'il faut que ce soit effectivement une personne bien ciblée, bien identifiable, ou est-ce que l'on peut considérer que larguer à un certain moment Little Boy, donc la fameuse bombe nucléaire sur Hiroshima, c'est en quelque sorte aussi un assassinat ciblé parce que l'on sait précisément ce que l'on va réserver comme sort à ceux qui sont en dessous?
Alors, l'assassinat ciblé, c'est vraiment l'élimination d'une personne pour son rôle supposé ou réel dans le combat contre nos propres intérêts. Et donc, c'est ce que disait Sun Tzu dans l'Art de la guerre. Il explique qu'il faut faire une liste des personnes qui sont chez l'ennemi crucial, à la fois les chefs de guerre, mais aussi les personnes qu'on pourrait considérer comme étant de moindre importance, qui, elles, vont, par exemple, contrôler les portes de la forteresse ou contrôler l'approvisionnement en nourriture ou des choses comme ça, c'est-à-dire toutes les personnes clés dans l'existence de l'ennemi.
On se souvient évidemment historiquement des attentats manqués contre Adolf Hitler, et il y en a eu quelques-uns. Attentats ciblés, lorsque l'on s'adresse comme ça, là, ou lorsque l'on vise comme ça à éliminer le sommet du problème, est-ce que c'est une arme de guerre? Est-ce qu'elle est déclenchée forcément à distance, ou est-ce qu'on attend qu'elle soit réalisée par les gens les plus proches?
Elle peut être déclenchée à distance, surtout aujourd'hui avec l'utilisation des drones, hein, puisque une puissance comme les États-Unis ou même la Russie, la Chine, Israël, etc., disposent de moyens technologiques pour agir à l'autre bout du monde à peu près en permanence. Donc on peut s'attendre à ce qu'une puissance comme celle-ci défende ses intérêts, non plus seulement dans les environs immédiats de son territoire, mais n'importe où sur la planète. C'est encore plus vrai aujourd'hui, mais ça l'était déjà un petit peu dans ces dernières décennies, et Israël notamment a énormément utilisé l'assassinat ciblé.
Oui, en à la fois par des missiles qui étaient particulièrement bien dirigés vers tel responsable du Hamas ou d'autres, ou alors en s'en prenant aux responsables de la prise d'otage mortelle des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich de 1972.
Oui, le principe d'Israël, c'est qu'Israël ne pardonne pas. C'est un moyen que ce pays entouré par des ennemis, entre guillemets, à sa création, a trouvé pour survivre. Donc voilà, que ce soit qu'on considère comme légitime ou pas, c'est effectivement un des moyens de survie d'Israël, c'est de ne pas pardonner, de traquer les gens à l'autre bout du monde, et donc d'aller développer des moyens à la fois humains et technologiques pour rechercher des personnes et pour les éliminer où qu'elles soient, y compris si elles sont protégées par des dizaines de gardes du corps ou si elles sont cachées au fin fond de la Patagonie.
Guéric Poncet, vous êtes journaliste depuis belle lurée, depuis 20 ans au Point. Vous êtes diplômé en politique internationale et en histoire. Vous êtes auditeur de l'école de guerre et vous avez présidé l'Association des journalistes de défense. À ce titre, alors cette question, est-ce que l'assassinat ciblé fait partie de l'enseignement de la guerre ?
Non, pas vraiment. De ce que j'ai pu constater, l'assassinat ciblé, en tout cas en France, c'est un peu un sujet tabou, c'est-à-dire qu'on le laisse aux services secrets, aux services clandestins. Et donc, ce qui n'est pas assumable en public est vraiment jamais discuté. Et ce qui est assumable en public peut être effectué par des commandos, par exemple, lorsqu'il s'agit d'aller éliminer un djihadiste dans le Sahel. Et là, lorsqu'il s'agit vraiment de l'armée, même si ce sont des forces spéciales, on peut parfois communiquer autour. Mais c'est vrai que l'enseignement de ce type de pratique ne fait pas partie du tronc commun.
L'assassinat ciblé, on en a encore vu d'autres exemples, peut-être moins commentés ici, mais dans la récente campagne électorale en Équateur, des candidats, et non des moindres, qui se font abattre, on imagine que c'est qualifiable d'assassinat ciblé.
Oui, c'est un assassinat ciblé. Alors, ça ne rentrera pas dans le cadre de mon livre qui, lui, s'intéresse à l'assassinat ciblé comme arme de guerre. Mais effectivement, en politique intérieure, l'assassinat ciblé est très pratiqué. On se souvient aussi de l'exemple du frère de Kim Jong-un qui a été assassiné dans un aéroport, en public, par des personnes qui pensaient participer à un jeu de télé-réalité, mais qui étaient manipulées par les services de la Corée du Nord.
L'identité même de celles et ceux qui commanditent n'est pas forcément l'identité de celui ou celle qui réalise.
Non, 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 il existe dans la plupart des pays des services spécialisés qui vont exécuter les ordres du pouvoir, que ce soit dans des
Ce qu'on appelle
démocraties
des
ou dans des pays
barbouzes.
autoritaires. Ce sont soit des barbouzes, soit des personnes qui sont des espions enfin, très officiels, entre guillemets, hein, dont l'identité n'est pas forcément connue, mais qui ont un métier bien encadré par la loi de leur pays, par exemple, et qui vont aller exécuter des ordres, exécuter parfois des personnes au nom de la protection de la nation.
Oui, est-ce que l'assassinat ciblé sur son propre territoire existe chez nous? Parce qu'on songe évidemment à des assassinats célèbres comme celui du président Kennedy, de son frère Bob ou de Martin Luther King, mais est-ce que c'est une pratique, même si elle est inavouable et inavouée, mais qui existe chez nous?
Elle a pu exister, je n'ai pas d'exemple très récent comme ça en Europe, mais il est certain qu'à partir du moment où on l'utilise dans d'autres cadres, c'est une option pour des personnes qui seraient prêtes à aller jusqu'au bout, soit pour avoir plus de pouvoir, soit pour sauver leur réputation, défendre leurs intérêts, etc.
Quelles sont, à l'heure actuelle, je dirais, les techniques dont il faut se méfier? Parce qu'on va finir, évidemment, en nous écoutant, par devenir tous parano.
Oui, alors les techniques, on les a évoquées très rapidement tout à l'heure, mais pour développer un peu plus, je pense que le développement des mini-drones, des nano-drones, vraiment de la taille d'un insecte ou de la taille d'un jouet, vraiment va changer les choses. Hein. C'est ce que me disait aussi le commandant du GIGN, le service d'élite de la gendarmerie française avec lequel je me suis entretenu pour le livre. C'est que pour lui, il a fallu repenser tous les plans de protection de personnalité en trois dimensions et non plus en deux dimensions. C'est-à-dire qu'eux se contentaient avant de mettre un périmètre autour d'une personne. Aujourd'hui, il faut aussi mettre une bulle de protection aérienne pour se protéger des drones. Et c'est quelque chose de très compliqué puisque les drones peuvent utiliser plusieurs technologies pour continuer à approcher, pour contourner finalement les défenses, alors que le défenseur, lui, se contente de mettre plusieurs couches en espérant que personne ne passe. Et lorsque les drones attaquent en nuée, c'est-à-dire en essaim, avec 10, 100, 1000 drones qui attaquent en même temps, quelle que soit leur taille, il devient extrêmement difficile, voire impossible de se protéger. Aujourd'hui, on n'a pas les technologies nécessaires, la défense a un petit peu de retard, et donc il y a une fenêtre de temps pendant laquelle on n'aura pas encore développé les systèmes de défense face à une menace émergente.
On voit par ailleurs d'ailleurs un certain nombre de personnalités, alors on pense bien sûr à des chefs d'État, mais pas que, qui sont entourés par des gardes du corps qui ont à la main une espèce de valise, mais qui ressemble fort surtout à un bouclier écran. Est-ce que ça fait partie des tentatives peut-être un peu dérisoires de se protéger de ce genre d'armes?
Oui, alors la valise qui se déplie, souvent c'est un élément qui permet de mettre une barrière pare-balles devant une personnalité, mais effectivement elle peut servir à se protéger des drones aussi. Souvent les services de protection de personnalité désormais disposent aussi d'un fusil brouilleur, c'est une espèce de gros fusil d'assaut un peu plus épais, un peu plus lourd, qui va brouiller les ondes d'un drone qui approcherait, mais si le drone est pré-programmé, qu'il n'a pas forcément besoin d'être télépiloté en direct, il va contourner ce système-là de défense. Il y a aussi souvent des bons vieux fusils à pompe, entre guillemets, qui eux peuvent éparpiller des billes de plomb pour essayer d'aller casser les hélices des drones. Donc voilà, il y a plein de systèmes de défense. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de systèmes de brouillage qui sont déployés en permanence autour des VIP, des personnalités, et notamment pour brouiller le Bluetooth, le Wi-Fi, le réseau mobile, etc. Donc il y a beaucoup de systèmes de défense. Malheureusement, il n'y en a aucun qui arrive à ne serait-ce que 90% de réussite.
Le titre de votre livre, Guéric Poncet, c'est « La mort fantôme ». Je le disais, on va devenir parano. C'est une mort qui frappe là où on ne l'attend pas, tout le temps. On ne dort plus, on ne vit plus, on ne respire plus, on ne sort plus.
Oui, c'est effectivement ça incite à la beaucoup de prudence en tout cas, et même ceux qui s'en protègent le mieux, on sait que Prigogine était vraiment un paranoïaque de sa sécurité, ça ne l'a pas sauvé. Donc il n'a pas été attaqué par quelque chose de très high-tech, mais malgré tout, il a été piégé. Donc les systèmes de défense qu'on doit déployer aujourd'hui autour d'une personne qui souhaite se protéger et qui est particulièrement visée par des tentatives d'assassinat sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus variés que ce qu'il fallait avant lorsqu'on mettait simplement des gardes du corps autour. Aujourd'hui, il faut aussi toute une panoplie de systèmes technologiques pour essayer de protéger quelqu'un.
Oui, lorsque Joe Biden ironise à propos de Prigogine avant sa mort en lui disant ou en disant par médias interposés « je lui conseille de se méfier de sa cuisine »,
oui, c'est sûr, tout peut devenir une menace, hein. C'est-à-dire que la substitution d'un objet du quotidien par les services secrets qui voudraient éliminer quelqu'un est tout à fait plausible. Ça l'était déjà pour les personnalités les plus exposées dans les décennies précédentes, et aujourd'hui ça devient possible et facile à réaliser pour des personnes qui sont simplement un peu exposées, et pas seulement les ennemis publics numéro un d'un État.
Est-ce que cela fait partie des raisons pour lesquelles on parle de plus en plus de sosies, hein ? On évoque les sosies de Poutine, on a évoqué des sosies possibles de Prigogine en disant ils utilisent des sosies, alors pourquoi ? Pour éventuellement brouiller les pistes ?
Oui, l'utilisation de sosie, c'est quelque chose qui a été largement utilisé dans l'histoire, et aujourd'hui, ça devient encore plus intéressant. Malheureusement, certaines des technologies qu'on maîtrise déjà permettent de détecter les sosies, notamment la biométrie, la reconnaissance faciale, tous ces éléments-là permettent de détecter en général les sosies. Mais malgré tout, ça incite aussi à la prudence sur, par exemple, le fait que Prigogine soit effectivement décédé dans cet avion. Il y aura toujours un petit doute, puisque ce sont les autorités russes qui ont confirmé les analyses ADN et pas vraiment un laboratoire indépendant qui aurait pu avoir accès aux échantillons. Donc les Russes, eux, ont intérêt à contrôler l'information qui sort de chez eux, et on ne saura peut-être jamais si Prigogine était véritablement dans cet avion, même si c'est probable. Finalement, toutes les technologies qui permettent de détecter les sosies aujourd'hui sont largement développées et on les maîtrise, donc elles vont être déployées peut-être dans les drones ou ne serait-ce que dans les lunettes de visée des snipers.
Pourquoi, à votre estime, lorsqu'il s'agit de groupes particuliers, parle-t-on alors de terrorisme pour ces actes, même lorsqu'ils ciblent des personnes bien précises, et que l'on parle d'assassinat ciblé, ce qui semble plus politiquement correct quand il s'agit de terrorisme d'État ?
Alors, il y a deux éléments. D'une part, lorsque l'assassinat est réalisé par le vainqueur ou par celui qui contrôle l'information, effectivement, il va avoir tendance à minimiser l'impact de son geste tout en se glorifiant d'avoir réussi. Et puis, deuxième élément, le terrorisme vise à terroriser une population et ce n'est pas toujours le cas d'un assassinat ciblé. Le terrorisme vraiment s'adresse autant aux personnes éliminées qu'aux personnes survivantes qui vont avoir peur, qui vont être terrorisées par la suite et modifier leur comportement. C'est-à-dire qu'un terroriste gagne pas forcément quand il réussit à tuer beaucoup de monde dans un attentat, mais quand il réussit à transformer une société qui cible.
Qu'est-ce que cela nous dit, tout ce que nous évoquons, des guerres actuelles et du futur, de ce qu'on appelle déjà les guerres hybrides ?
L'assassinat ciblé fait partie de la panoplie de la guerre hybride. C'est pour ça que les Russes le maîtrisent si bien aussi. C'est qu'ils sont experts en guerre hybride, c'est-à-dire en guerre qui inclut tout ce qui n'est pas forcément du combat au front, pas forcément des chars, des avions, mais de la guerre économique, de la guerre psychologique, de la guerre de l'information et de l'élimination des personnalités clés chez l'ennemi qui vont soit bloquer son développement, retarder l'acquisition de nouvelles capacités ou simplement démoraliser l'ennemi qui sera alors moins enclin à se battre. Et donc le fait que l'assassinat ciblé se développe, c'est un symptôme du fait que même si la guerre en Ukraine est une guerre de haute intensité, la guerre hybride prend le pas aujourd'hui au XXIe siècle sur les guerres classiques qu'on a connues au XXe siècle.
Mais vous évoquez d'ailleurs dans votre livre 5 scénarios d'élimination ciblée dans le futur. Vous nous en parlez ?
Oui, alors j'ai essayé dans le livre d'esquisser quelques scénarios qui me semble plausible dans le futur. L'idée était de montrer qu'il peut y avoir soit une prise de contrôle d'un véhicule autonome à distance pour éliminer quelqu'un, soit l'infiltration de drones insectes dans un avion présidentiel pour aller éliminer la présidente, soit encore l'utilisation d'armes bactériologiques ou la coordination dans le monde entier d'une attaque de petits drones sur des personnes clés pour un État qui sont réparties dans des zones géographiques très différentes. On sait que les États en général évitent de réunir tous leurs dirigeants, tous les membres de l'exécutif dans une même pièce. Et bien l'utilisation de nuées de drones réparties dans plusieurs endroits qui attaquent exactement à la même seconde pourrait permettre d'éliminer la totalité de l'exécutif d'un pays en un clic.
Et voir lors d'une réunion des Nations Unies où l'on pourrait alors assister à une hécatombe. Est-ce qu'on a un palmarès, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, mais des États ou des groupes qui pratiquent le mieux, le plus, qui ont les longueurs d'avance? Parce qu'on imagine que ce sont les parades qui sont en retard, ce ne sont pas les offensifs.
Effectivement, l'épée est en avance sur le bouclier pour l'instant. Mais comme le disait le général Réti, le commandant du GIGN, il disait je fais confiance à l'intelligence humaine, on a toujours trouvé des parades. Fin de citation. Et donc, le problème, c'est de savoir dans combien de temps on va trouver ces parades et quelle sera leur efficacité, puisque finalement, l'important, ce sera aussi de mettre de l'intelligence artificielle dans les systèmes de défense pour qu'ils puissent prendre l'initiative et réagir aussi vite que l'attaquant. À partir du moment où l'attaquant utilise l'intelligence artificielle, le défenseur n'a pas le luxe de s'en passer. Sinon, s'il maintient l'humain dans la boucle, malheureusement, il va perdre systématiquement. L'idée est vraiment de développer au plus vite ces systèmes-là. Et donc, pour répondre à votre question, le palmarès, on suppose que la Chine est très en avance sur les systèmes d'intelligence artificielle et notamment les systèmes de coordination des drones. Ils ont montré qu'ils arrivaient à coordonner des milliers de drones pour faire des spectacles aériens, mais évidemment, ça peut être détourné. Il y a aussi les États-Unis, la Russie, Israël, qui est très, 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 très pointu là-dessus aussi.
L'Inde.
L'Inde et le Brésil, eux aussi, développent des briques technologiques qui permettent d'avancer sur ces systèmes-là.
Le fin mot de l'histoire, c'est évidemment de se demander jusqu'où cela est condamnable et si l'on peut poursuivre. Dès lors que vous nous parlez de mort fantôme, on imagine qu'il y a une impunité.
Il y a une impunité en particulier pour les États qui font la loi dans le monde, entre guillemets. La question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure ce qui est légitime peut devenir légal et dans quelle mesure la personne qui juge ce qui est légitime ou pas, ce qui est légal ou pas, est habilitée à le faire. Lorsque c'est l'État qui a lui-même éliminé une personne qui décide que c'est une action légale ou légitime, il y a un problème.
Est-ce que aujourd'hui, des conventions pourraient venir brider cela, comme on a tenté de le faire pour le nucléaire?
Alors, il y a déjà une justice internationale et un droit international qui interdit ce type de pratique, mais les États réussissent à contourner en permanence les règles établies, puisqu'ils qualifient des personnes de terroristes alors qu'elles n'en sont pas toujours, ou ils appliquent un système de légitime défense qui n'est pas toujours très justifié.
Merci pour ces éléments d'explication de ce qui est une guerre que nous maîtrisons mal, nous le grand public, mais qui existe, l'assassinat ciblé comme arme de guerre, que vous publiez et détaillez aux éditions du Rocher. Merci Guéric Poncet.
Merci beaucoup.